Livre quatrième. Chapitre premier. De la liberté. L'homme libre est celui qui vit comme il le veut, qu'on ne peut ni contraindre à faire une chose, ni empêcher de la faire, à qui l'on ne peut rien imposer de force, qui n'est jamais arrêté dans ce qu'il entreprend, qui ne manque jamais ce qu'il désire, qui ne tombe jamais dans ce qu'il redoute. Or, est-il quelqu'un qui veuille vivre en faute? Personne. Est-il quelqu'un qui veuille vivre dans l'erreur, à l'étourdi, injuste, dissolu, se plaignant toujours de son sort, n'ayant que des sentiments bas? Personne. Il n'est donc pas un pervers qui vive comme il le veut, et pas un par conséquent qui soit libre. D'autre part, est-il quelqu'un qui veuille vivre à s'affliger, à trembler, à être jaloux, à se lamenter pour autrui, à désirer pour ne pas avoir ce qu'il désire, à craindre pour tomber dans ce qu'il craint? Personne. Or, avons-nous un seul pervers qui vive sans affliction et sans terreur, qui ne tombe jamais dans ce qu'il redoute, qui ne manque jamais ce qu'il désire? Pas un. De cette manière donc encore, nous n'en avons pas un qui soit libre. Tiens ce langage devant un homme qui aura été deux fois consul, il te le pardonnera, si tu ajoutes « Pour toi, tu es un sage, et rien de tout ceci ne te concerne. » Mais si tu lui dis la vérité, qu'au point de vue de la servitude il n'y a aucune différence entre lui et ceux qui ont été vendus trois fois, devras-tu attendre autre chose que des coups? Comment, dira-t-il, je suis un esclave, moi dont le père était libre, dont la mère était libre et que personne n'a acheté. Mais je suis sénateur et ami de César, j'ai été consul, et j'ai une foule d'esclaves. D'abord, mon cher sénateur, peut-être ton père était-il esclave tout comme toi, ainsi que ta mère, ainsi que ton grand-père, et tous tes aïeux à la suite les uns des autres. Et alors même qu'ils auraient été aussi libres que possible, qu'importerait par rapport à toi? Qu'importe en effet qu'ils aient du cœur si tu n'en as pas? Qu'ils aient été courageux si tu es lâche, qu'ils aient été maîtres d'eux-mêmes si tu ne l'es pas de toi. Et quel rapport ceci a-t-il avec la servitude? Crois-tu que ce ne soit pas de l'esclavage que de faire quelque chose malgré soi, par contrainte, en pleurant? Soit, mais qui peut me contraindre, hormis César, le maître de tous? Tu conviens donc toi-même que tu as un maître? Oui, mais ce maître est commun à tous. Cela ne doit pas être pour toi une consolation, car cela signifie seulement que tu es esclave dans une maison qui a un grand nombre d'autres esclaves. Tu ressembles aux Nicopolitains qui ont l'habitude de crier « Par la fortune de César, nous sommes libres ». Laissons cependant César pour le moment, si tu le veux bien. Réponds-moi à ceci. N'as-tu jamais été amoureux? N'as-tu jamais eu de maîtresse, qu'elle fût libre ou esclave? Et quel rapport cela a-t-il avec ma servitude ou avec ma liberté? Celle que tu aimais ne t'a-t-elle donc jamais rien commandé contre ton gré? N'as-tu jamais flatté ton esclave? Ne lui as-tu jamais baisé les pieds? Certes, si quelqu'un t'avait forcé de baiser ceux de César, tu aurais vu là un outrage, et le comble de la tyrannie. Qu'est-ce donc que la servitude, si ce que tu faisais là n'en était pas? Pour elle, n'as-tu jamais été de nuit où tu ne voulais pas? N'as-tu jamais dépensé plus que tu ne le voulais? N'as-tu jamais rien dit avec des gémissements et des pleurs? N'as-tu jamais dû te laisser injurier et mettre à la porte? Si tu rougis d'avouer ta propre histoire, vois ce que dit et fait Thrasonides après avoir fait plus de campagne que toi probablement. D'abord, il sort de nuit, à une heure telle que Geta n'ose pas y sortir, ou ne sort, quand son maître l'y contraint, qu'avec force cri, force lamentation sur son dur esclavage. Puis que dit-il? Une misérable fillette m'a fait son esclave quand aucun ennemi ne l'avait pu. Malheureux qui est l'esclave d'une fillette et d'une misérable fillette. Pourquoi te dis-tu libre encore? Pourquoi vantes-tu tes campagnes? Puis il demande une épée et se fâche contre ceux qui la lui refusent par intérêt pour lui-même. Il envoie des cadeaux à ceux qui le détestent. Il la supplie, il pleure. Par contre, qu'il obtienne d'elle la moindre faveur, et le voilà hors de lui. Mais à ce moment même encore, comment est-il? N'a-t-il plus rien à désirer? Plus rien à craindre? Et voilà comment il est libre. Vois comment nous appliquons l'idée de la liberté quand il s'agit des animaux. Certaines gens entretiennent des lions apprivoisés. Ils les enferment, les nourrissent et les emmènent partout avec eux. Qui dira qu'un tel lion est libre? N'est-il pas d'autant plus esclave qu'il a une vie plus douce? Quel est l'être doué de sens et de raison qui voudrait être un de ces lions? Vois par contre ces oiseaux que l'on prend, que l'on enferme et que l'on nourrit. Que ne souffrent-ils pas pour essayer de s'échapper? Il en est de même qui se laissent mourir de faim plutôt que de supporter ce genre de vie. Quant à ceux que l'on conserve, c'est à grand-peine avec bien de la difficulté et encore, ils dépérissent. Et dès qu'ils trouvent la moindre ouverture, les voilà partis. Tant ils aiment la liberté pour laquelle ils sont faits, tant ils ont besoin d'être indépendants et affranchis de toute entrave. Êtes-vous donc mal ici? Leur dites-vous. Ils répondent. Que dis-tu là? Nous sommes nés pour voler où bon nous semble, pour vivre au grand air et chanter quand nous le voulons. Tu nous enlèves tout cela et tu dis êtes-vous mal ici? Aussi, nous n'appellerons race libre que celle qui ne supporte pas d'être prise et qui, sitôt prise, échappe à la captivité par la mort. C'est ainsi que Diogène dit quelque part « Il n'y a qu'un moyen d'être libre, c'est d'être toujours disposé à mourir. » C'est ainsi encore qu'il écrit au roi de Perse « Tu ne pourras pas plus réduire en servitude les Athéniens que tu n'y peux réduire les poissons. » Comment cela? Ne puis-je pas les prendre? Si tu les prends, ils auront bientôt fait de te quitter et de s'en aller comme les poissons. Si tu prends un poisson, il meurt. Et si eux meurent aussi, quand tu les auras pris, quel profit tireras-tu de ton expédition? Voilà le langage d'un homme libre qui a soigneusement examiné la question et qui a trouvé la solution, comme cela devait être. Mais si tu la cherches ailleurs qu'où elle est, comment s'étonner que tu ne la trouves jamais? L'esclave souhaite bien vite d'être affranchi. Pourquoi? Pour le plaisir de donner de l'argent au fermier du 20e? Non. Mais parce qu'il s'imagine que c'est faute d'avoir obtenu cet affranchissement qu'il n'est ni libre ni heureux. Que l'on m'affranchisse, dit-il, et à l'instant mon bonheur est complet, je n'ai plus à faire ma cour à personne, je parle à qui que ce soit comme égal et son semblable, je vais où je veux, je pars d'où je veux, et pour où je veux. On l'affranchit. Aussitôt, n'ayant plus où manger, il cherche quelqu'un à flatter, quelqu'un chez qui dîner. Il fait argent de son corps et se prête aux dernières infamies. Qu'il trouve un râtelier, et le voilà retombé dans une servitude bien plus dure que la première. Ou s'il fait fortune, le goujat qu'il est, le voici qu'il s'éprend d'une femme de rien, et alors il souffre, il pleure, il regrette son temps d'esclavage. « Quel mal y avais-je » dit-il. « C'était un autre qui m'habillait, qui me chaussait, qui me nourrissait, qui me soignait quand j'étais malade, et mon service chez lui était bien peu de choses. Mais aujourd'hui, hélas, que de misère! Que de maîtres j'ai au lieu d'un seul! » Et il ajoute. « Si pourtant j'obtenais les anneaux, quelle vie facile et heureuse j'aurais alors! » Et pour les obtenir, il commence par endurer 1000 choses dont il est digne. Puis quand il les a obtenues, il en endure encore de pareilles. Puis il se dit « Si je faisais campagne, je couperais court à toutes mes misères. » Il fait campagne, il souffre comme un vaurien, et il n'en demande pas moins une seconde et une troisième fois à faire campagne. Puis quand il a mis le comble à son élévation, quand il est devenu sénateur, qu'est-il alors? Un esclave qui se rend aux séances. Ses chaînes sont plus belles, elles sont les plus brillantes de toutes, mais ce sont des chaînes. Qu'il cesse de n'être qu'un sot, qu'il apprenne, comme le disait Socrate, la nature vraie de chaque chose, et qu'il n'applique pas sans réflexion ses notions premières aux objets particuliers. Là, en effet, est la cause de tous les malheurs des hommes. Ils ne savent pas appliquer leurs notions premières et générales aux faits particuliers. Nous croyons les uns à une cause de nos maux, les autres à une autre. L'un se dit « C'est que je suis malade. » Pas du tout, c'est qu'il applique mal ses notions premières. Un autre, c'est que je suis pauvre. Celui-ci, c'est que j'ai un méchant père ou une méchante mère. Celui-là, c'est que César ne m'est pas favorable. Mais la seule et unique cause, la voici. Ils ne savent pas appliquer leurs notions premières. Est-il quelqu'un, en effet, qui n'ait pas sur le mal cette notion première, qu'il est funeste, qu'il est à fuir, qu'il est à écarter de toutes les façons? Personne, car il n'y a jamais d'opposition entre les notions premières des uns ou des autres. Les oppositions ne commencent que quand on en vient aux applications. Par exemple, qu'est-ce qui est ce mal si funeste que l'on doit si bien éviter? On dit, c'est de ne pas être l'ami de César. C'en est fait, on est à côté de l'application vraie. On est aux abois. On va chercher des choses sans rapport avec la question, car on aura beau obtenir l'amitié de César, on n'aura pas obtenu pour cela ce qu'on demandait. Qu'est-ce que l'homme demande en effet? À vivre calme et heureux, à tout faire comme il le veut, à ne jamais être empêché ni contraint. Or, une fois l'ami de César, n'est-il plus jamais empêché? Plus jamais contraint? Vit-il toujours calme et heureux? Qui interrogerons-nous là-dessus? Et quelle autorité peu digne de foi que celle de l'ami même de César? Avance donc au milieu de nous, toi, et dis-nous, quand est-ce que ton sommeil était le plus tranquille? Est-ce aujourd'hui ou avant que tu ne fasses l'ami de César? Aussitôt tu lui entends dire « Cesse par tous les dieux de te railler de mon sort. Tu ne sais pas ce que je souffre, hélas. Le sommeil ne vient même pas pour moi. On a court me dire, il est déjà éveillé, il sort déjà. Puis tous mes soucis et toutes mes craintes. Eh bien, quand est-ce que tu as le mieux goûté les douceurs de la table? Aujourd'hui ou auparavant? Écoute encore ce qu'il nous dit là-dessus. S'il n'est pas invité, il est au souper comme un esclave à la table de son maître, tremblant sans cesse de dire ou de faire quelque sottise. Et que crois-tu qu'il craigne, d'être fouetté comme un esclave? Et d'où lui viendrait tant de chance? Comme il convient à un homme de son importance, à un ami de César, il craint d'avoir la tête coupée. Posons-lui ces questions. Quand te baignais-tu avec le moins d'appréhension? Quand exerçais-tu le plus à loisir? En somme, quelle est celle des deux vies que tu aimerais le mieux mener? Celle de maintenant ou celle d'autrefois? Je puis bien jurer qu'il n'y a personne d'assez dénué de sens, d'assez ennemi de la vérité, pour ne pas se plaindre de souffrir, d'autant plus qu'il est plus ami de César. Puis donc, ni ceux qu'on appelle rois, ni ceux qui sont les amis des rois, ne vivent que comme ils veulent? Qui est-ce qui est libre? Cherche et tu le trouveras, car la nature t'a donné plus d'une voie pour découvrir la vérité. Mais si par toi-même tu n'es pas capable, en te bornant à suivre ces voies, de trouver ce qui est au bout, écoute ceux qui ont fait cette recherche. Que te disent-ils? Crois-tu que la liberté soit un bien? Le plus grand de tous. Quelqu'un qui est en possession du plus grand bien peut-il être malheureux? Peut-il être misérable? Non. Tout ce donc que tu verras malheureux, souffrant, gémissant, dis ardemment qu'ils ne sont pas libres. Je le dis. Nous voici donc bien loin de l'achat, de la vente et de tous les modes pareils d'acquisition. Car si ce que tu nous accordes est vrai, un roi grand ou petit, un consulaire ou même un homme qui a été deux fois consul, ne sont pas libres, dès qu'ils sont malheureux. Oui. Réponds-moi donc encore à ceci. Crois-tu que la liberté soit une chose d'importance, une noble chose, une chose de prix? Comment non? Se peut-il donc qu'un homme, qui possède une chose de cette importance, de cette élévation ait le cœur bas? Cela ne se peut. Lors donc que tu verras quelqu'un s'abaisser devant un autre et le flatter contre sa conviction, dis hardiment que celui-là non plus n'est pas libre. Non pas seulement quand c'est pour un dîner qu'il s'agit ainsi, mais encore lorsque c'est pour un gouvernement ou pour le consulat. Appelle petits esclaves ceux qui se conduisent ainsi pour un petit salaire, mais ces autres, appelle-les de grands esclaves, ils le méritent bien. Soit pour ceci encore. Crois-tu d'autre part que la liberté soit l'indépendance et la pleine disposition de soi-même? Comment non? Tous ceux donc aussi qu'il est au pouvoir d'un autre d'entraver ou de contraindre, dit hardiment qu'ils ne sont pas libres. Ne regarde pas au père et au grand-père, ne cherche pas si l'on a été acheté ou vendu, mais dès que tu entendras quelqu'un dire « maître », sérieusement et de cœur, appelle-le esclave, alors même que 12 faisceaux marcheraient devant lui. Si tu lui entends dire « hélas, que de maux je souffre, appelle-le esclave. Plus simplement, qui que ce soit que tu vois pleurer, se plaindre, se trouver malheureux, appelle-le esclave, quand même il porterait la robe bordée de pourpre. Alors même encore que l'on ne ferait rien de tout cela, ne dis pas qu'on est libre, examine auparavant les déterminations des gens. Vois s'il n'y a pour elles ni contrainte, ni empêchement, ni mauvais succès. Si tu trouves qu'il y en a, dis que ces gens sont des esclaves, qui ont un jour de congé ou saturnal, dit que leur maître est en voyage, mais il arrivera et tu verras alors quelle est leur condition. Quel est donc ce maître qui doit arriver? Tous ceux qui ont le pouvoir de leur procurer ou de leur enlever quelqu'un des objets qu'ils désirent. Avons-nous donc en effet tant de maîtres? Oui, car avant cela, nous avons les objets mêmes pour maîtres. Et ces objets sont nombreux, et c'est grâce à eux que tous ceux qui les ont à leur disposition sont forcément nos maîtres eux aussi. Ce que l'on craint, en effet, ce n'est pas la personne de l'empereur, c'est la mort, l'exil, la confiscation, la prison, la dégradation. Ce n'est pas non plus l'empereur que l'on aime, à moins qu'il ne soit du premier mérite. C'est la richesse que nous aimons, c'est le tribunat, le pontificat, le consulat. Mais dès que nous aimons, haïssons ou redoutons ainsi quelque chose, tous ceux qui l'ont en leur pouvoir sont forcément nos maîtres. De là vient encore que nous les honorons comme des dieux. Nous croyons, en effet, que les choses les plus utiles sont aux mains des dieux, et nous y ajoutons à tort, cet homme a dans ses mains les choses les plus utiles, donc il est un dieu. Or, une fois que nous avons ajouté à tort, cet homme a dans ses mains les choses les plus utiles, il faut forcément en arriver à une conclusion fausse. Qu'est-ce donc qui fait de l'homme un être sans entrave et maître de lui? Ce n'est pas le gouvernement d'une province, ce n'est pas même la royauté. Il nous faut trouver autre chose. Or, qu'est-ce qui fait que lorsque nous écrivons, il n'y a pour nous ni empêchement ni obstacle? La science de l'écriture. Et quand nous jouons de la harpe, la science de la harpe. Donc, quand il s'agira de vivre, ce sera la science de la vie. Mais ceci n'est qu'une exposition générale. Vois les choses dans le détail. Quand on désire quelque chose qui dépend d'un autre, peut-on être à l'abri de tout empêchement? Non. De tout obstacle? Non. On ne peut donc pas non plus alors être libre. Vois plutôt. N'avons-nous rien qui dépende de nous seuls? Ou tout ce que nous avons en dépend-il? Ou bien encore est-il des choses qui dépendent de nous tandis que les autres dépendent du dehors? Que veux-tu dire? Quand tu veux que ton corps soit au complet, dépend-il de toi qu'il le soit ou non? Cela ne dépend pas de moi. Et quand tu veux qu'il soit en bonne santé? Non plus. Quand tu veux qu'il soit beau? Non plus. Quand tu veux qu'il vive ou qu'il meure? Non plus. Ton corps relève donc d'autrui, il est dans la dépendance de quiconque est plus fort? Oui. Dépend-il de toi d'avoir un champ à ta volonté, aussi étendu que tu voudras, et de la qualité que tu voudras? Non. Et des esclaves? Non. Et des vêtements? Non. Et une maison? Non. Et des chevaux? Rien de tout cela. Et si tu veux voir vivre toujours tes enfants ou ta femme ou ton frère ou tes amis, cela dépend-il de toi? Pas davantage. N'as-tu donc rien, dont tu sois le maître, qui ne dépende que de toi et que nul ne puisse t'enlever? Ou bien as-tu quelque chose qui soit dans ces conditions? Je n'en sais rien. Regarde donc de la façon que voici et examine la chose. Peut-on te forcer à croire ce qui est faux? Non. Sur le terrain de la croyance, il n'y a donc pour toi ni entrave ni contrainte. Accepté. Marchons donc. Quelqu'un peut-il te forcer à vouloir ce que tu as résolu de ne pas faire? On le peut, car en me menaçant de la mort ou de la prison, on me force à vouloir. Mais si tu méprisais la mort ou la prison, t'inquiéterais-tu encore de ces menaces? Non. Est-il ou non en ton pouvoir de maîtriser la mort? Cela est en mon pouvoir. Vouloir est donc aussi en ton pouvoir. Ou ne serait-ce pas vrai? Oui, c'est en mon pouvoir. Et ne pas vouloir, au pouvoir de qui est-ce? Au mien encore? Mais pourtant, si quand je peux me promener, cet homme m'arrête, que peut-il? Arrêter ta faculté de vouloir? Non, mais mon corps? Oui, comme une pierre. Soit. Mais il n'en est pas moins vrai que je ne me promènerai pas. Et que te dit que te promener était en ton pouvoir? Sans empêchement possible. Il n'y a qu'une chose que j'ai dit être affranchie de toute contrainte, la volonté. Mais dès que tu as besoin de ton corps et de ton ministère, il y a longtemps que je t'ai dit que rien là n'était en ton pouvoir. Soit, encore pour ceci. Maintenant, peut-on te forcer à désirer ce dont tu ne veux pas? Non. À projeter ou à entreprendre quelque chose, en un mot, à user de telle ou telle façon des objets que tes sens te présentent. Pas davantage. Mais si je désire, on m'empêchera d'arriver à ce que je désire. Si tu désires quelqu'une des choses qui sont bien tiennes, sans empêchement possible, comment t'en empêchera-t-on? On ne pourra pas. Qui t'a donc dit que, si tu désirais quelqu'une des choses qui ne sont pas tiennes, tu ne rencontrerais jamais d'obstacle? Ne dois-je donc point désirer la santé? Non, pas plus que tout ce qui n'est pas tien. Car tout ce qui n'est pas en ton pouvoir de te procurer ou de conserver lorsque tu le veux, tout cela n'est pas vraiment tien. Éloigne de tout cela non seulement tes mains, mais tes désirs bien plus tôt encore. Sinon, tu te mets toi-même dans les fers, tu présentes la tête aux joues. Quand tu accordes du prix à ce qui n'est pas complètement à toi, quand tu t'attaches à quoi que ce soit qui dépend de la fortune et doit périr. Ma main n'est-elle donc pas la mienne? Elle est une de tes parties. Mais Bou, de sa nature, elle peut être arrêtée et contrainte, et elle en est la puissance de quiconque est plus fort. Mais qu'ai-je à te parler de ta main? Ton corps tout entier doit n'être à tes yeux qu'un anon qui porte tes fardeaux, pendant le temps où il lui est possible de le faire, pendant le temps où cela lui est donné. Survient-il une réquisition? Un soldat met-il la main sur lui? Laisse-le aller, ne résiste pas, ne murmure pas. Sinon, tu recevras des coups, et tu n'en perdras pas moins ton anon. Or, si c'est là ce que tu dois être vis-à-vis de ton corps, vois ce qui te reste à être vis-à-vis de toutes les choses qu'on n'acquiert qu'à cause de son corps. Si ton corps est un anon, tout le reste n'est que bride, bas, fer pour les pieds, orge et foin à l'usage de l'anon. Laisse donc tout cela, et défais-t'en plus vite et plus gaiement que de ton anon même. Ainsi préparé et exercé à distinguer les choses qui ne sont pas tiennes de celles qui le sont, et celles qui peuvent être entravées de celles qui ne le peuvent être, à te croire intéressé dans les secondes et nullement dans les premières, à veiller ici sur tes désirs et là sur tes craintes, qui peux-tu redouter encore? Personne. Car pourquoi redouterais-tu quelqu'un? Pour les choses qui sont bien à toi et qui sont les seules où se trouvent réellement le bien et le mal? Mais qui a pouvoir sur elles? Qui peut te les enlever? Qui peut les empêcher en toi? On ne le peut pour toi non plus que pour Dieu. Craindrais-tu pour ta personne et pour ta bourse? Pour des choses qui ne sont pas à toi? Pour des choses qui ne t'intéressent en rien? Et à quoi t'es-tu exercé dès le premier jour, si ce n'est à distinguer ce qui est tien et ce qui n'est pas tien, ce qui dépend de toi et qui n'en dépend pas, ce qu'on peut entraver et ce qu'on ne peut pas entraver? Dans quel but as-tu été trouvé, les philosophes? Serait-ce donc pour n'être ni moins infortuné, ni moins malheureux? Voilà comment tu seras sans terreur et sans trouble. Le chagrin, en effet, existera-t-il alors pour toi? Non, car on ne s'afflige de voir arriver que les choses qu'on a attendues en les redoutant. Convoiteras-tu encore quoi que ce soit? Tu désireras d'une manière calme et régulière tout ce qui relève de ton libre arbitre, tout ce qui est honnête et sous ta main. Quant aux choses qui ne relèvent pas de ton libre arbitre, tu n'en désireras aucune assez pour qu'il y ait place en toi à des ardeurs de bête brute et à des impatiences sans mesure. Lorsqu'on est dans cette disposition d'esprit à l'égard des objets, quel homme peut-on redouter encore? Qu'est-ce qu'un homme, en effet, a de redoutable pour un autre homme, soit qu'il apparaisse à ses yeux, soit qu'il lui parle, soit même qu'il vive avec lui? Rien, pas plus qu'un cheval pour un cheval, un chien pour un chien, une abeille pour une abeille. Ce que chacun redoute, ce sont les choses, et c'est quand quelqu'un peut nous les donner ou nous les enlever qu'il devient redoutable à son tour. Cela étant, qu'est-ce qui met à néant les citadelles? Ce n'est ni le fer, ni le feu, mais nos façons de juger et de vouloir. Car lorsque nous aurons mis à néant la citadelle qui est dans la ville, aurons-nous mis à néant du même coup celle d'où nous commande la fièvre et celle d'où nous commandent les jolies filles? En un mot, aurons-nous renversé avec la citadelle qu'ils s'y sont faites tous les tyrans qui sont en nous, ces tyrans que nous y trouvons chaque jour à propos de tout, tantôt les mêmes, tantôt divers? C'est par là qu'il faut commencer, c'est de là qu'il faut chasser les tyrans, après avoir mis à néant leur citadelle. Il faut pour cela renoncer à son corps, avec toutes ses parties et à toutes ses facultés, renoncer à la fortune, à la gloire, aux dignités, aux honneurs, à ses enfants, à ses frères, se dire qu'il n'y a dans tout cela rien qui soit à nous. Puis, une fois que j'ai ainsi chassé de mon âme ces tyrans, que me servirait encore, à moi du moins, de renverser les citadelles de pierre? Car debout, quel mal me font-elles? À quoi bon chasser les gardes du tyran? En quoi m'aperçois-je de leur existence? C'est contre d'autres qu'ils ont ces faisceaux, ces lances et ces épées. Jamais je n'ai été empêché de faire ce que je voulais, ni contraint à faire ce que je ne voulais pas. Et comment ai-je pu en arriver là? J'ai subordonné ma volonté à celle de Dieu. Veut-il que j'aie la fièvre? Moi aussi je le veux. Veut-il que j'entreprenne quelque chose? Moi aussi je le veux. Veut-il que je tende à un but? Moi aussi je le veux. Veut-il que quelque chose m'arrive? Moi aussi je le veux. Ne le veut-il pas? Je ne le veux pas. Veut-il que je meure? Veut-il que je sois torturé? Qu'est-ce qui peut alors m'entraver ou me contraindre contrairement à ce qui me semble bon? On ne le peut pas plus pour moi que pour Jupiter. Ainsi font ceux qui veulent voyager en sûreté. Apprend-on qu'il y a des voleurs sur la route on n'ose pas partir seul. Mais on attend qu'un lieutenant, qu'un questeur ou un proconsul fasse le même voyage, on se met à leur suite et on fait la route en sûreté. Ainsi fait le sage dans le monde. Il y a, se dit-il, force voleur, force tyran, force tempête, force disette, force perte d'amis bien chers. Où trouver un refuge? Comment voyager à l'abri des voleurs? Quel compagnon de route peut-on attendre pour faire le trajet en sûreté? À la suite de qui faut-il se mettre? À la suite d'un tel, d'un riche, d'un consulaire? À quoi cela me servirait-il? Car voilà qu'on le dépouille, qu'il gémit et qu'il pleure. Puis, si mon compagnon de route se tourne lui-même contre moi et se fait mon voleur, que ferai-je? Je vais donc être l'ami de César, et quand je serai son ami intime, personne ne m'attaquera. Mais d'abord, pour arriver à ce rang brillant, que ne me faudra-t-il pas supporter et souffrir? Combien de fois et par combien de gens ne me faudra-t-il pas être volé? Puis, supposez que je devienne son ami, n'est-il pas mortel lui aussi? Et si par suite de quelques circonstances il devient mon ennemi, où vaudrait-il mieux me retirer? Dans un désert, soit. Mais est-ce que la fièvre n'y pénètre pas? Quel est donc l'état des choses? Et me serait-il impossible de trouver un compagnon de route, sûr, fidèle, puissant, et qui ne se tournât jamais contre moi? Voilà ce que dit le sage, et il en conclut que c'est en se mettant à la suite de Dieu qu'il fera son voyage sans danger. Qu'appelles-tu donc se mettre à la suite de Dieu? C'est vouloir soi-même ce qu'il veut, et ne pas vouloir ce qu'il ne veut pas. Et comment le peut-on faire? Le peut-on autrement qu'en étudiant les desseins de Dieu et sa façon de disposer les choses? Que m'a-t-il donné qui soit à moi et dont je sois le maître? Que s'est-il réservé à lui-même? Il m'a donné ma faculté de juger et de vouloir, il l'a faite dépendante de moi seule, au-dessus de tout empêchement et de toute contrainte. Mais ce corps debout, comment pouvait-il le faire exempt d'entrave? Il a donc subordonné aux évolutions du grand. Tout le sort de notre fortune, de nos meubles, de notre maison, de nos enfants, de notre femme. Pourquoi dès lors, à propos d'eux, lutter contre Dieu? Pourquoi vouloir ce que je ne dois pas vouloir? Pourquoi prétendre avoir à tout jamais des choses qui ne m'ont jamais été données pour cela? Comment dois-je donc désirer les avoir? Comme elles m'ont été données et dans la mesure où elles l'ont été. Mais celui qui me les a données me les retire. Eh bien, pourquoi lui résister? Je ne me borne pas à dire que je serais absurde de lutter contre un plus fort. De plus et avant tout, je manquerais à mes devoirs. Car de qui avais-je toutes ces choses en arrivant au monde? C'est mon père qui me les avait données, mais lui, qu'est-ce qu'il les lui avait donné? Qu'est-ce qui a fait le soleil, les fruits, les saisons? Qu'est-ce qui a fait cette vie en commun et cette association des hommes entre eux? Et quand tu tiens tout d'un autre, jusqu'à ton être propre, tu t'emportes et tu accuses celui qui t'a tout donné pour peu qu'il te reprenne quelque chose. Qui es-tu donc et pourquoi es-tu venu ici? N'est-ce pas lui qui t'y a amené? N'est-ce pas lui qui t'a fait voir la lumière, qui t'a donné des compagnons de travail, qui t'a donné l'essence, qui t'a donné la raison? Mais qui a-t-il amené ici? Un être mortel, n'est-ce pas vrai? Un être qui doit vivre sur la terre en compagnie d'un corps chétif, et pendant quelque temps y contempler la façon dont Dieu gouverne, y célébrer les jeux avec lui, et avec lui assister aux fêtes. Ne consentiras-tu donc pas, après avoir contemplé la fête et l'assemblée, tant qu'il te l'aura permis, à t'en aller quand il t'emmènera, en lui témoignant ton respect et en le remerciant pour tout ce que tu as vu et entendu? Non, car j'aurais voulu rester encore à la fête. Ceux en effet qu'on initie voudraient que l'initiation dure plus longtemps, et sans doute ceux qui sont à Olympie voudraient voir d'autres athlètes encore. Mais la solennité est terminée. Va-t'en et pars en homme reconnaissant, en homme réservé, fais place à d'autres, car il faut que d'autres naissent à leur tour, comme tu es né toi-même, et que, après être né, ils aient un pays et une demeure à eux, avec les choses nécessaires à la vie. Que leur resterait-il si l'on ne mettait pas les premiers dehors? Pourquoi n'es-tu pas satisfait? Pourquoi n'en trouves-tu pas assez? Pourquoi veux-tu faire que le monde soit trop étroit? Oui, mais je voudrais avoir avec moi ma femme et mes enfants. Est-ce qu'ils sont à toi et non à celui qui te les a donnés, à celui qui t'a fait? Ne peux-tu pas renoncer à ce qui n'est pas à toi? Céder quelque chose à ton supérieur? Mais pourquoi m'a-t-il amené ici à ces conditions? Si elles ne te plaisent pas, va-t'en. Il n'a que faire d'un spectateur qui se plaint. Il désire avoir des gens qui prennent part à la fête et au cœur, mais pour qu'ils applaudissent, pour qu'ils fassent éclater leurs transports et vendent bien haut la Réunion. Quant aux indifférents et aux sans-cœur, il les verra sans peine quitter l'assemblée. Car lorsqu'ils y étaient, ils ne s'y conduisaient pas comme à une fête, et n'y jouaient pas le rôle qu'ils devaient y jouer. Loin de là, ils se plaignaient, ils accusaient Dieu, le sort, leurs compagnons, ne se rappelant pas tout ce qu'ils avaient reçu, et toutes les ressources qui leur avaient été données contre l'adversité, telles que la grandeur d'âme, la noblesse de cœur, le courage, et cette liberté même qui est l'objet de nos recherches présentes. Mais pourquoi donc ai-je reçu ces objets qui m'entourent? Pour t'en servir. Combien de temps? Tant que voudra celui qui te les a prêtés. Mais s'ils me sont indispensables, ne t'y attache pas, et ils ne le seront point. Ne dis pas toi-même qu'ils te sont indispensables, et ils ne le seront pas. Voilà les réflexions qu'il te faudrait faire depuis le matin jusqu'au soir, en commençant par les objets du moindre prix et les plus fragiles, ta marmite et ta coupe. Viens-en après cela à ton vêtement, à ton chien, à ton cheval, à ton champ, puis à toi-même, à ton corps et à ses parties, à tes enfants, à ta femme, à tes frères. Regarde de tous les côtés, puis rejette hors de toi tout ce qui doit y être rejeté. Épure tes jugements. Rien de ce qui n'est pas à toi ne s'attache à toi et ne s'y incarne, pour te faire souffrir quand il s'en détachera. Puis dis, en t'exerçant ainsi tous les jours, comme tu t'exerces là-bas, non pas que tu es philosophe, car le mot serait outrecuidant, mais que tu t'affranchis, car c'est là qu'est la vraie liberté. Ce fut celle-là que Diogène reçut d'Antisthène, et quand il l'eut reçue, il déclara qu'il ne pouvait plus être asservi par personne. Aussi, quand il fut pris, comment en agit-il avec les pirates? En fut-il un seul, qu'il appela son maître? Je ne parle pas ici du mot, car je ne crains pas le nom par lui-même, mais de la disposition d'esprit d'où parle le mot. Comme il les critique de nourrir mal leurs prisonniers, et quelle tenue il a eue pendant qu'on l'achetait! Cherchait-il un maître? Non, un esclave. Et quand il eut été acheté, comment se conduisait-il avec son maître? Dès le premier instant, il discute avec lui. Ce n'est pas ainsi qu'il devrait se vêtir, pas ainsi qu'il devrait se raser, et ses enfants, voici comment il devrait les élever. Et qu'y a-t-il là d'étonnant? Si cet homme eût acheté un maître de gymnastique, en aurait-il fait, au gymnase, son subordonné ou son maître? Même question s'il avait acheté un médecin ou un architecte. C'est ainsi qu'en chaque chose, celui qui sait doit nécessairement commander à celui qui ne sait pas. Celui donc qui a la science générale de la vie, peut-il être autre chose que le maître? Qu'est-ce qui commande sur un vaisseau? Le pilote. Pourquoi? Parce que quiconque lui désobéit s'en trouve mal. Eh bien, cet homme peut me faire écorcher ou mettre au fer. Le peut-il donc impunément? Il me semblait que oui. Ce qu'on ne peut faire impunément, on n'a pas la permission de le faire. Or, personne ne saurait impunément faire une injustice. Et quelle est la punition de celui qui met son esclave au fer? Que crois-tu qu'elle soit? Le fait même de le mettre au fer. Et toi-même en conviendras si tu veux te rappeler que l'homme n'est pas une bête sauvage, mais un animal fait pour la société. Quand la vigne, en effet, se trouve-t-elle dans un mauvais état, quand elle est dans un état contraire à sa nature? Et le coq? De même donc aussi l'homme. Or, quelle est sa nature? Est-ce de mordre, de ruer, de jeter en prison et de couper les têtes? Non, mais de faire le bien, de venir en aide aux autres et de faire des vœux pour eux. On est donc dans un mauvais état, que tu le veuilles ou non, dès lors qu'on est injuste. Le mal n'a donc pas été pour Socrate? Non, mais pour ses juges et ses accusateurs. À Rome, il n'a donc pas été pour Helvidius? Non, mais pour celui qui l'a fait périr. Que dis-tu là? C'est pour la même raison que tu n'appelles pas malheureux le coq victorieux qui a été blessé, mais le coq sans blessure qui a été vaincu. C'est encore pour la même raison que tu trouves heureux, non pas le chien qui n'a rien poursuivi et qui n'a pas eu de peine, mais celui que tu vois couvert de sueur, fatigué, n'en pouvant plus à force de courir. Quel paradoxe disons-nous donc quand nous disons que le mal, pour tout être, est ce qui est contraire à sa nature? Est-ce vraiment là un paradoxe? N'est-ce pas précisément ce que tu dis toi-même pour tous les autres êtres? Pourquoi alors soutiens-tu autre chose au sujet de l'homme seul? Eh bien, quand nous disons que la nature de l'homme est d'être sociable, affectueux, loyal, est-ce là encore un paradoxe? Pas davantage. Comment en serait-ce donc un quand nous disons que ce n'est pas un mal d'être écorché, d'être mis en prison, d'être décapité? qui souffre tout cela en homme de cœur, ne s'en tire-t-il pas avec avantage et profit? Le mal réel, le sort le plus déplorable et le plus honteux, c'est quand on était un homme, de devenir un loup, une vipère, un frelon. Marchons donc et passons en revue tout ce sur quoi nous sommes d'accord. L'homme libre est celui pour qui il n'y a pas d'obstacle et qui trouve sous sa main les choses comme il les veut. L'esclave est celui qu'on peut entraver, contraindre, empêcher, jeter contre son gré dans quelque chose. Pour qui donc n'y a-t-il pas d'obstacle? Pour qui ne désire pas ce qui n'est point à lui? Et qu'est-ce donc qui n'est pas à nous? Ce qu'il ne dépend pas de nous d'avoir ou de ne pas avoir, d'avoir de telle qualité ou en tel état. Notre corps n'est donc pas à nous, ses parties ne sont pas à nous, notre fortune n'est pas à nous. Par suite, si tu t'attaches à quelqu'une de ces choses comme si elles t'appartenaient en propre, tu en seras puni, ainsi que doit l'être celui qui désire ce qui n'est pas à lui. La seule route qui conduise à la liberté, le seul moyen de s'affranchir de la servitude, c'est de pouvoir dire du fond de son cœur « Ô Jupiter, ô destinée, conduisez-moi où vous avez arrêté de me placer. » Mais toi, que dis-tu au philosophe? Le tyran t'appelle pour que tu lui dises des choses qui sont indignes de toi. Les lui diras-tu ou ne les lui diras-tu pas? Réponds-moi. Laisse-moi réfléchir. Tu vas réfléchir maintenant? À quoi réfléchissais-tu donc quand tu étais à l'école? Ne cherchais-tu pas ce qui était un bien, ce qui était un mal, ce qui n'était ni l'un ni l'autre? C'était sur cela que je réfléchissais. Et qu'arrêtions-nous donc alors? Que tout ce qui était juste et honorable était un bien, que tout ce qui était injuste et honteux était un mal. La vie te paraissait-elle un mal? Non. Et la prison? Non plus. Et que pensions-nous de paroles sans dignité et sans honneur qui trahissent un ami ou qui flattent un tyran? Qu'elles étaient un mal? Eh bien, tu n'as pas à réfléchir ni à délibérer. Quel besoin en effet de nous demander s'il nous convient de nous procurer les plus grands des biens et d'éloigner de nous les plus grands des maux quand nous le pouvons? Oh, le bel examen, comme il est nécessaire, et quelle longue délibération il exige! Pourquoi te moquer de nous? Homme, jamais pareil examen ne se présente. Si tu pensais, comme cela est vrai, que les seuls maux sont les choses honteuses, les seuls biens des choses honorables, et que tout le reste est indifférent, tu n'en serais jamais venu à cette hésitation tant s'en faut. Sur le champ, tu aurais tout démêlé, comme d'un coup d'œil par ta seule raison. Réfléchis-tu jamais pour savoir si le noir est blanc? Si ce qui est lourd est léger, ne te rends-tu pas sur le champ à l'évidence? Comment donc nous dis-tu aujourd'hui que tu réfléchiras pour savoir s'il faut fuir ce qui est indifférent plus que ce qui est un mal? C'est que tu n'as pas vraiment les convictions dont nous parlons. C'est que les choses indifférentes ne te paraissent pas indifférentes, mais les plus grands des maux, et que les maux à leur tour ne te paraissent pas des maux, mais des choses sans importance pour nous. Voici en effet les habitudes que tu as prises dès le principe. Où suis-je? À l'école. Et quels sont ceux qui m'écoutent? C'est à des philosophes que je parle. Puis un instant après, ah, me voici hors de l'école, supprimons toutes ces distinctions de scolastique et d'imbécile. C'est de cette façon qu'un philosophe dépose à faux contre un ami, de cette façon qu'il se fait parasite, de cette façon qu'il se vend pour de l'argent, de cette façon que dans le Sénat, on ne dit pas ce que l'on pense, tandis que l'on crie ses opinions dans l'intérieur de l'école. Tu n'es rien que velléité d'idées frivoles et misérables, et tu tiens à un cheveu avec tes propos en l'air. Il faudrait, au contraire, que tu fusses un homme fort, un homme pratique, que l'exercice et les œuvres eussent fait de toi un véritable initié. Observe-toi toi-même. Comment reçois-tu la nouvelle? Je ne dis pas que ton fils est mort, car d'où cela te viendrait-il? Mais que ton huile a été répandue, et qu'on a bu ton vin. Puis celui qui surviendrait alors, au milieu des beaux cris que tu pousserais, ne te dire que ceci, philosophe, tu parles autrement dans l'école, pourquoi donc nous tromper? Pourquoi, lorsque tu n'es qu'un ver, dire que tu es un homme? Je voudrais arriver quand un de ces individus est dans un tête-à-tête amoureux. Je voudrais voir ce qui devient sa force, quel propos il y tient, et s'il s'y souvient de son titre et de toutes les belles choses qu'il entend, qu'il dit ou qu'il lit. Et quel rapport cela a-t-il avec la liberté? Il n'y a que cela qui y conduise, que vous le vouliez ou non. Vous autres riches, et quel témoin en as-tu? Vous-même et pas d'autre? Vous qui avez un maître tout-puissant et qui vivez les yeux sur ses gestes et sur ses mouvements. Qu'il regarde seulement l'un de vous en fronçant le sourcil, vous voilà mort de peur, vous qui faites votre cour aux vieilles et aux vieux, et vous dites Je ne puis pas faire cela. Cela ne m'est pas permis. Et comment cela ne t'est-il pas permis? Ne soutenais-tu pas tout à l'heure contre moi que tu étais libre? Mais Aprilia me l'a défendu. Dis donc la vérité, esclave, ne te sauve pas de chez tes maîtres, ne les renie pas. N'aie pas le front de te prétendre affranchi quand tu portes de telles marques de ton esclavage. On pourrait plutôt concevoir, comme digne de pardon, celui que l'amour force à agir contre sa conviction, et qui, tout en voyant où est le mieux, n'a pas cependant la force de s'y conformer. Celui-là au moins cède à la violence, et en quelque sorte à un dieu. Mais toi, comment te supporter, mignon des vieilles et des vieux, qui mouche et qui lave ses dames, qui leur apporte des cadeaux, et qui, tout en les soignant comme un esclave, quand elles sont malades, fait des vœux pour qu'elles meurent, et demande aux médecins si leur état est enfin mortel? Comment te supporter encore, quand, pour arriver à tes hautes charges et à tes grandes dignités, tu baises la main des esclaves d'un autre, si bien que tes maîtres ne sont même pas de condition libre? Puis après cela, prêteur ou consul, tu te promènes fièrement devant moi. Est-ce que je ne sais pas comment tu es devenu prêteur, par quels moyens tu as obtenu le consulat, et qu'est-ce qui te l'a donné? Pour moi, je ne voudrais même pas de la vie s'il me fallait vivre de par Félicien, en supportant son orgueil et son insolence d'esclave, car je sais trop ce que c'est qu'un esclave dans un semblant de bonheur qui l'enivre. Toi donc, me dis-tu, es-tu libre? Je le voudrais de par tous les dieux, et je fais des vœux pour l'être, mais je n'ai pas encore la force de regarder mes maîtres en face. Je fais encore cas de mon corps, et j'attache un grand prix à l'avoir intact, bien que je ne l'aie pas tel. Mais je puis du moins te faire voir un homme libre pour que tu cesses d'en chercher un exemple. Diogène était libre, et d'où lui venait sa liberté? Non pas de ce qu'il était né de parents libres, il ne l'était pas, mais de ce qu'il était libre par lui-même. Il s'était débarrassé de tout ce qui donne prise à la servitude, on n'aurait su par où le prendre, ni par où le saisir, pour en faire un esclave. Il n'avait rien dont il ne pût se détacher sans peine, il ne tenait à rien que par un fil. Si vous lui aviez enlevé sa bourse, il vous l'aurait laissée plutôt que de vous suivre à cause d'elle. Si sa jambe, si son corps tout entier, et si ses parents, ses amis ou sa patrie, même chose encore. Il savait en effet d'où il tenait tout cela, de qui il l'avait reçu et à quelles conditions. Quant à ses vrais parents, les dieux, et quant à sa véritable patrie, jamais il n'y aurait renoncé. Jamais il n'aurait permis qu'un autre fût plus obéissant et plus soumis à ses dieux, et personne ne serait mort plus volontiers que lui pour cette patrie. Ce n'est pas qu'il cherchât jamais à paraître faire quelque chose en vue d'autres que lui, mais il se rappelait que tout ce qui arrive vient de ses dieux, que tout se fait pour cette patrie et par l'ordre de celui qui la gouverne. Aussi vois ce qu'il dit et ce qu'il écrit. C'est pour cela, dit-il au Diogène, qu'il t'est possible de parler du ton que tu voudras au roi des Perses, ou à Archidamus, le roi de Lacédémone. Est-ce parce qu'il était né de parents libres? Mais alors ce serait comme fils esclave, que tous les Athéniens, tous les Lacédémoniens, tous les Corinthiens ne pouvaient pas parler à ces rois du ton qu'ils voulaient, tremblaient devant eux et les servaient. Pourquoi donc cela m'est-il possible? Dit-il. Parce que je ne regarde pas mon corps comme à moi. Parce que je n'ai besoin de rien, parce que la loi est tout pour moi et que rien autre ne m'est quelque chose. Voilà ce que lui donnait le moyen d'être libre. Afin que tu ne dises pas que je te montre comme un exemple un homme dégagé de tout lien social, un homme n'ayant ni femme, ni enfant, ni patrie, ni ami, ni parent, pour le faire plier ou dévier, prends-moi Socrate et vois-le ayant une femme et des enfants, mais comme des choses qui n'étaient pas à lui. Ayant une patrie, mais dans la mesure où il le fallait, et avec les sentiments qu'il fallait. Ayant des amis, des parents, mais plaçant au-dessus de tous la loi et l'obéissance à la loi. Aussi, quand il fallait aller à la guerre, il y partait le premier, et s'y épargnait au danger moins que personne. Mais lorsque les tyrans lui ordonnèrent d'aller chez Léon, convaincu qu'il se déshonorerait en y allant, il ne se demanda même pas s'il irait. Ne savait-il pas bien, en effet, qu'il lui faudrait toujours mourir, quand le moment en serait venu? Que lui importait la vie? C'était autre chose qu'il voulait sauver, non pas sa carcasse, mais sa loyauté et son honnêteté, et sur ces choses-là, personne n'avait prise ni autorité. Puis, quand il lui faut plaider pour sa vie, se conduit-il comme un homme qui a des enfants, comme un homme qui a une femme? Non, mais comme un homme qui est seul. Et quand il lui faut boire le poison, comment se conduit-il? Il pouvait sauver sa vie, et Criton lui disait: pars d'ici pour l'amour de tes enfants. Que lui répond-il? Voit-il là un bonheur inespéré? Comment l'y eut-il vu? Il examine ce qui est convenable et il n'a ni un regard ni une pensée pour le reste. C'est qu'il ne voulait pas, comme il le dit, sauver son misérable corps, mais ce quelque chose qui grandit et se conserve par la justice, qui décroît et périt par l'injustice. Socrate ne se sauve pas par des moyens honteux, lui qui avait refusé de donner son vote, quand les Athéniens le lui commandaient, lui qui avait bravé les tyrans, lui qui disait de si belles choses sur la vertu et sur l'honnêteté. Un tel homme ne peut se sauver par des moyens honteux. C'est la mort qui le sauve et non pas la fuite. Ne reste-t-on pas plus sûrement bon acteur en cessant de jouer quand il le faut, qu'en jouant encore quand il ne le faut plus? Mais que feront tes enfants? Lui dit-on. Si je m'en allais en Thessalie, répond-il, vous prendriez soin d'eux. Eh bien, n'y aura-t-il personne de vous pour en prendre soin quand je serai parti pour les enfers? Vois comme il adoucit l'idée de la mort et comme il en plaisante. Si nous avions été à sa place, toi et moi, nous aurions prétendu doctoralement tout de suite qu'il faut se venger de ceux qui vous ont fait du mal en leur rendant l'appareil. Puis nous aurions ajouté, si je me sauve, je serai utile à bien des gens. Je ne le serai à personne si je meurs. Nous serions sortis par un trou, s'il l'avait fallu pour nous échapper. Mais comment aurions-nous été utiles à personne? Où seraient restés en effet ceux à qui nous aurions pu servir? Et quand même nous aurions pu leur être utiles en vivant, n'aurions-nous pas été plus utiles encore à l'humanité en mourant quand il le fallait et comme il le fallait? Aujourd'hui que Socrate n'est plus, le souvenir de ce qu'il a dit ou fait avant de mourir n'est pas moins utile à l'humanité, il l'est même davantage. Voilà les principes, voilà les paroles qu'il te faut méditer. Voilà les exemples qu'il te faut contempler, si tu veux être libre, si tu le désires comme la chose en vaut la peine. Et qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'une chose de cette importance s'achète si cher et à si haut prix? Pour la prétendue liberté, il y a des gens qui se pendent, et d'autres qui se précipitent de haut sur le sol. Il y a même des villes entières qui ont péri pour elle, et pour avoir la vraie liberté, celle qui est à l'abri de toute embûche et de tout péril, tu refuseras de rendre à Dieu ce qu'il t'a donné comme il te le réclame? Refuseras-tu de te préparer, comme le dit Platon, non seulement à mourir, mais encore à être mis en croix, à être écorché, en un mot à rendre tout ce qui n'est pas à toi? Tu ne seras donc qu'un esclave parmi des esclaves, fusses-tu 10 000 fois consul. Parviens même au trône, tu ne seras toujours qu'esclave, et tu t'apercevras que les philosophes, suivant le mot de Cléante, disent des choses qui sont peut-être contraintes à l'opinion, mais non pas contraires à la raison. Les faits apprendront qu'ils disent vrai, et que toutes ces choses que l'on admire et pour lesquelles on se donne tant de peine ne servent de rien à ceux qui les ont. Quand on ne les a pas encore, l'idée nous vient que si on les obtenait, on aurait avec elles tous les biens, puis quand on les a obtenus, on se consume de même, on s'agite de même, on se dégoûte de ce que l'on a, on convoite ce que l'on n'a pas. Car ce n'est pas en satisfaisant ses désirs qu'on se fait libre, mais en se délivrant du désir. Veux-tu savoir que je dis vrai? Donne-toi pour te délivrer de tes désirs la même peine que tu te donnais pour les satisfaire. Veille pour acquérir les manières de voir qui doivent te faire libre. Au lieu de t'empresser près d'un vieillard riche, empresse-toi près d'un philosophe. Qu'on te voie à sa porte, tu n'auras pas à rougir d'y être vu, et tu ne le quitteras pas les mains vides et sans profit, si tu vas à lui avec les sentiments qu'il faut. Si tu ne les as pas, essaie du moins, il n'y a pas de honte à essayer.